L'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. À tous ceux qui en doutaient encore, le Covid-19 n'est pas une grippette. Une étude révèle aujourd'hui que le coronavirus fait 3 fois plus de morts à l'hôpital.
Près de 50% des jeunes n'ont pas confiance en la police.
C'est ce qui ressort d'un sondage publié ce matin. Quant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il aura lui la lourde tâche aujourd'hui de convaincre les forces de l'ordre qu'elles n'ont pas de raison de douter de la confiance du chef de l'État, invité de la rédaction. Dans une dizaine de minutes, Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales.
L'actualité à l'étranger est tout d'abord au Nigeria.
Au moins 300 élèves dont le rapt avait été revendiqué cette semaine par le groupe djihadiste Boko Haram ont été relâchés hier soir par leurs ravisseurs. Enfin, aux États-Unis, celle qui avait promis d'être une voix forte pour les autochtones, Deb Haaland, devrait tenir son pari en devenant la première amérindienne de l'histoire du pays à occuper un poste ministériel. Si la pandémie laisse déjà transparaître les étranges contours de nos fêtes de fin d'année, au point parfois même de s'interroger, y aura-t-il de la joie à Noël? Les questions n'en sont souvent que plus nombreuses. Quelles sont les bonnes ou mauvaises stratégies à adopter? Étant entendu qu'il est d'abord et surtout de la responsabilité de chacun de réfléchir à la manière dont nous pouvons limiter au mieux les chaînes de transmission. Et à ce titre, sans doute l'annonce hier de la contamination d'Emmanuel Macron sonne-t-elle comme une piqûre de rappel pour tous ceux qui seraient tentés par le relâchement. C'est également, bien entendu, un rebondissement de taille dans le feuilleton politico-sanitaire de cette épidémie. En témoigne l'alerte générale déclenchée à l'adresse des responsables politiques français et étrangers. Aussitôt la nouvelle connue, le Covid-19 est entré par la porte du palais présidentiel. Alors, hasard de l'actualité, non seulement l'annonce de la contamination d'Emmanuel Macron est intervenue peu après la présentation de la stratégie vaccinale du gouvernement, mais également le jour même de la publication par l'Institut Pasteur d'une étude sur les circonstances et les lieux de contamination par le virus. Un enjeu évidemment de taille à la veille des retrouvailles familiales de fin d'année où quand l'on apprend que le virus se diffuse majoritairement lors des partages de repas, que ce soit en famille, entre amis ou au travail, les réunions privées constituant la part la plus importante des infections, près de 20%. Enfin, c'est aujourd'hui qu'une étude française publiée dans la revue médicale The Lancet vient démontrer que non, le Covid-19 n'est décidément pas une grippette comme certains ont pu le proclamer au début de la pandémie. Laurine Benjebria, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, le coronavirus fait 3 fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique.
Oui, et pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l'INSERM et du CHU de Dijon se sont appuyés sur les données nationales de près de 130 000 patients hospitalisés soit pour une grippe durant l'hiver 2018-2019, soit pour le coronavirus en mars et avril de cette année. Sur les 89 000 patients Covid observés, plus de 15 000 sont morts, soit 17%. Un taux de mortalité 3 fois plus élevé que la grippe qui en enregistre 6%. Des chiffres d'autant plus frappants que la grippe de l'hiver 2018-2019 était la pire de ces 5 dernières années en France en termes de mortalité selon les chercheurs. Le coronavirus, bien plus mortel que la grippe donc, il entraîne aussi plus de formes graves. Plus d'un patient Covid sur 4 a souffert d'une insuffisance respiratoire aiguë, contre moins d'un patient sur 5 pour la grippe. Les malades du coronavirus sont plus souvent admis dans les services de réanimation que les malades de la grippe, pour un séjour presque 2 fois plus long. Et parmi ces patients Covid en soins intensifs, 33% souffraient d'hypertension, 19% de diabète et 11% d'obésité ou de surpoids. Des chiffres qui viennent donc confirmer le lien entre ces pathologies et les risques de complications. Alors cette étude, elle possède, cela dit, quelques limites selon ses auteurs, notamment en termes de politique de test standardisée pour le coronavirus. Elle varie d'un hôpital à l'autre pour la grippe, ce qui peut d'une certaine manière, Thomas, sous-estimer le nombre de malades hospitalisés pour la grippe.
Merci Laurine Benjebria. Et puis j'ajoute, toujours selon cette étude, que l'épidémie de coronavirus semble être moins virulente chez les enfants. En l'occurrence, moins de mineurs ont été hospitalisés en raison d'une infection au Covid que pour la grippe. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a fixé hier comme objectif une reprise partielle des étudiants en présentiel dans les universités dès le 4 janvier pour les publics les plus fragiles, tels que les premières années et pour tous les autres. Tout dépendra de ce qui se passe dans les prochains jours en termes d'évolution des chiffres des contaminations. Rappelons que les cours en présentiel dans les universités, comme dans dont les grandes écoles sont suspendues depuis la fin octobre. En attendant, ce sont donc les vacances qui se profilent pour quelques 12 millions d'élèves. L'occasion pour le ministère de l'Éducation de tirer un premier bilan du fonctionnement hybride au lycée au total. Et depuis un mois et demi, ce sont près de 7 établissements publics sur 10 qui sont passés à une alternance présentielle distancielle. Or, à l'approche des premières épreuves du baccalauréat, ce sera en mars, ce système commence à sérieusement inquiéter non seulement les élèves et parents d'élèves, mais aussi certains chefs d'établissement, dont une partie, Alexis Morel, ont même préféré revenir sur leur décision.
50% de cours à distance depuis des semaines, ça commence sérieusement à inquiéter Sofiane en terminale à Mantes-la-Jolie, alors que les épreuves de spécialité, un tiers de la note du bac, sont prévues mi-mars.
Ce qui nous inquiète, c'est une certaine rupture d'égalité, d'équité. Il y a certains établissements qui fonctionnent 100% présentiel, alors que nous, on est en demi-régime. C'est pas normal qu'on n'arrive pas tous avec la même préparation pour les épreuves les plus importantes.
Inquiétude grandissante parmi les élèves, à tel point qu'après avoir mis en place un fonctionnement hybride, certains proviseurs reviennent en arrière. À l'image de Florent Martin, proviseur à Argelès dans les Pyrénées-Orientales et représentant du SNPDEN, le syndicat des chefs d'établissement.
À la demande à la fois des parents, des élèves, des enseignants, on a fait revenir nos terminales et nos premières intégralement. On avait un point d'inquiétude fort. Les enseignants nous ont très vite dit qu'à aucun moment ils n'avaient la possibilité de finir le programme dans des conditions correctes en continuant ce fonctionnement hybride.
Faire revenir les terminales, les classes à examen 100% du temps, interrogé par France Info, le ministère dit ne pas y être opposé, bien au contraire, si c'est possible. En revanche, pas question pour l'instant de reporter les épreuves de mars, comme le demandent les syndicats.
Est-ce parce qu'il célèbre ce mois-ci le 100e anniversaire de sa création? Toujours est-il que le Parti communiste français pourrait bien vouloir s'offrir comme cadeau d'anniversaire un candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il faut un candidat communiste, a martelé ce matin le secrétaire national du parti Fabien Roussel. Pour autant, et quand bien même le PCF a selon lui une originalité, une spécificité à défendre, cette ambition interroge. Et pourquoi? Parce que la dernière candidature communiste à une échéance pour la magistrature suprême date d'il y a 13 ans. Et en l'occurrence, Stéphane Robert, Marie-Georges Buffet avait obtenu à l'époque seulement 1,9% des suffrages exprimés.
Candidat, pas candidat à la présidentielle en 2022, le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, invité de nos confrères de France Info ce matin, a fait savoir qu'il avait très envie de s'y projeter.
Je pense personnellement qu'il y a besoin d'une candidature communiste à l'élection présidentielle.
Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon vous a écrit cette semaine en vous demandant de vous rallier à lui. Vous dites non, on n'a rien à partager?
Non, je dis pas ça. Mais Jean-Luc, il a déclaré sa candidature il y a quelques semaines tout seul, sans nous demander notre avis. Et puis maintenant, il nous dit faut qu'on y aille ensemble. Donc il va nous permettre que nous en discutions.
Les communistes vont donc en discuter, comme en 2012 et en 2017, où après de nombreuses tergiversations, ils avaient fini par apporter leur soutien à Jean-Luc Mélenchon. La question est donc de savoir si on est là dans le même cas de figure et si la menace de candidature de Fabien Roussel est une manière d'essayer de peser, de montrer ses muscles en vue d'éventuelles négociations avec la France insoumise. Car le Parti communiste sait qu'il n'est pas en mesure de jouer les premiers rôles à l'occasion de ce scrutin. Les deux dernières candidatures restent des traumatismes, 3,4% pour Robert Rue en 2002, 1,9% pour Marie-Georges Buffet 5 ans plus tard en 2007. Mais ce qui fait encore la force du Parti communiste, ce sont ses élus. Même en perte de vitesse, le PCF garde le contrôle de près de 250 communes. Il est présent dans les régions, dans les départements et possède toujours deux groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Et ce réseau d'élus est la clé d'une candidature à l'élection présidentielle où il faut récolter, condition préalable, 500 parrainages. Les communistes affirment d'ailleurs que sans eux, Mélenchon n'aurait pas pu se présenter en 2012 et en 2017. L'annonce d'une possible candidature de Fabien Roussel est donc peut-être, sans doute, les prémices de discussion avec Jean-Luc Mélenchon, à moins que Fabien Roussel ait réellement dans l'idée de se présenter. Quand on le croise dans les couloirs de l'Assemblée nationale, il lève le poing, il vous regarde dans les yeux et il vous dit « PCF is back ».
Une semaine après l'annonce par le chef de l'État, Emmanuel Macron, de l'organisation en janvier prochain d'un Beauvau de la sécurité. Et tandis que la colère ne faiblit pas au sein des forces de l'ordre, cible de critiques récurrentes, le ministre de l'Intérieur a prévu de rencontrer un à un aujourd'hui tous les syndicats de policiers. On le sait, deux d'entre eux, notamment Alliance, majoritaire chez les gardiens de la paix et l'UNSA, ont d'ores et déjà confirmé cette semaine qu'ils ne participeraient pas à ces états généraux. Autant dire que la tâche de Gérald Darmanin s'annonce difficile. jouer l'apaisement, mais plus encore sans doute restaurer la confiance. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, également auteur de « Que fait la police, le rôle du policier dans la société » paru aux éditions de l'Aube. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Y a-t-il, selon vous, quelque chose à attendre, tout simplement, de cette réunion donc préliminaire au Beauvau de la sécurité, étant entendu, je le disais, que deux syndicats ont déjà refusé d'y participer. On notera d'ailleurs que pour l'un d'entre eux, Alliance, la réunion de ce matin est vue comme une manière d'allumer un contre-feu.
Oui, bon, c'est difficile à dire. On en saura plus dans quelques heures, évidemment, mais c'est une tentative, en tout cas, par le gouvernement de recoller les morceaux, avec une répartition des rôles explicite ou non entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Et c'est vrai qu'après les déclarations d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines sur les violences policières et les contrôles d'identité, enfin les contrôles aux faciès, il a fallu en quelque sorte, je dirais, renouer le dialogue avec la police. Alors, est-ce qu'on peut en attendre grand-chose de ces rencontres? Peut-être des concessions sur les recrutements, les salaires, les moyens. Ça peut être une manière pour le ministre de l'Intérieur, comme ça a souvent été le cas par le passé, de renouer un peu le lien avec la police et de satisfaire un certain nombre de demandes de la profession. Tout comme on peut assister à quelque chose de théâtral où à la sortie, les syndicats nous diront que ça n'a servi à rien et que au final, ils se désolidarisent de ce gouvernement.
Vous évoquiez à l'instant les mots d'Emmanuel Macron qui ont donc conduit ces deux syndicats de policiers à refuser a priori de participer à ce Grenelle. Est-ce que l'on peut imaginer un Grenelle de la police sans syndicats de policiers ?
Bon, c'est difficile. Alors, d'ailleurs, on parle de Beauvau de la police, puisqu'on a adopté cette appellation liée à la localisation du ministère. J'ai envie de dire, les syndicats de police ne sont pas les seuls représentants de la police, parce que la police, lors d'un tel événement, serait aussi représentée par ses instances officielles, c'est-à-dire ses différentes directions et sous-directions. Et pour le moment, ce ne sont pas tous les syndicats qui ont dit qu'ils ne participeraient pas, c'est deux d'entre eux. Alors certes, Alliance est un syndicat très important parmi les gardiens de la paix, mais au fond, la question qu'on se pose en dehors de celle des syndicats, c'est celle de la représentation d'autres corps de la société, j'ai envie de dire, au sein d'une discussion comme celle-ci, parce qu'elle était question d'élus, de société civile, et pour le moment, on peine un petit peu à voir les contours de ça. Je critique pas l'initiative, hein, c'est toujours bien qu'on rassemble des gens de bonne volonté pour parler de ces questions de sécurité qui concernent la société dans son ensemble, mais pour le moment, on sait pas trop est-ce que ce seront des syndicats et les corps officiels de la police et de la gendarmerie d'une part, et puis, je sais pas moi, des citoyens tirés au sort d'autre part, comme on l'a vu sur d'autres thématiques, ou est-ce que ce sera quelque chose de plus structuré avec des associations, des magistrats, des avocats, des chercheurs? Pour le moment, c'est pas très très clair.
S'agissant non pas de l'initiative elle-même, mais plutôt du calendrier, on a beaucoup parlé de cette loi dite de sécurité globale, destinée notamment à fixer les règles en matière de maintien de l'ordre. On annonce donc aujourd'hui un Grenelle qui sera lancé le mois prochain. On a un peu le sentiment que les choses se font à l'envers.
De fait, elles se font à l'envers, et c'était évidemment pas quelque chose que le gouvernement prévoyait. La loi sécurité globale, elle s'inscrit en fait dans un travail parlementaire qui a été mené par les députés Fauvergue et Toureau. Donc il y a eu un rapport en fait sur ce qu'on appelle le continuum de sécurité, c'est-à-dire la répartition des tâches entre police nationale, gendarmerie nationale, police municipale, sécurité privée. Et on arrivait en fait au bout de ce cycle avec le vote de la loi. Mais il y a eu cet événement que fut donc le passage à tabac de Michel Zecler et donc les images qui ont généré une émotion nationale bien légitime. Et ce qui en fait a remis sur le devant de la scène la question du contrôle de la police, des relations police-population, des contrôles d'identité. Et d'une certaine façon, oui, ça apparaît comme une manière un petit peu désordonnée de faire les choses, mais il faut bien être conscient que là, on est un peu dans une extinction d'incendie. C'est qu'il y a un incendie qui s'est déclaré sur ces questions des relations police-population, et il faut faire quelque chose, et le gouvernement veut montrer qu'il agit, qu'il prend aussi à bras le corps cet aspect-là des choses.
Iriez-vous jusqu'à dire que ça n'est là que de l'affichage, au fond ?
J'ai envie de vous dire que les expériences précédentes ne m'incitent pas forcément à l'optimisme, puisqu'il y a eu, par exemple, tout au début de ce quinquennat, dans les premiers mois, le lancement de la police de sécurité du quotidien, avec une grande messe qui a été organisée en février 2018 à l'école militaire, où justement il y avait des gens de la police, de la gendarmerie, mais aussi des acteurs comme des élus locaux ou des universitaires. Et puis au final, cette réforme, on voit bien qu'elle a été un tout petit peu enterrée, ou en tout cas qu'elle a été reléguée complètement au second plan. Donc ma crainte, c'est que oui, ce Beauvau de la sécurité ne débouche pas sur grand-chose de concret. Bon, après, je ne vais pas me priver malgré tout d'espérer, on ne sait jamais, peut-être que ce sera l'ouverture un peu d'un nouveau cycle à la fois de réflexion et d'action sur la question de la sécurité intérieure et surtout des relations plus populaires.
Et on terminera par ces mots optimistes. Merci Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Que fait la police, le rôle du policier dans la société, paru aux éditions de l'Aube. Au terme de 5 semaines de procès, la Cour d'assises spéciale de Paris a condamné hier à la réclusion à perpétuité Ayoub El-Kazani, le tireur de l'attentat du Thalys qui avait fait 2 blessés. C'était le 21 août 2015, une attaque finalement déjouée par un concours de circonstances improbables, mais plus encore par le courage exceptionnel, certains diront héroïque, de plusieurs passagers. Dans les tragédies, il arrive que surviennent des moments de grâce, avait lui-même déclaré cette semaine l'avocat général, dont les réquisitions auront finalement été suivies. L'avocate du terroriste a annoncé qu'il ferait appel. Alors les débats n'auront pas permis de faire toute la lumière sur ce projet terroriste qui annonçait les attentats du 13 novembre 2015, coordonnés en l'occurrence par le donneur d'ordre du tireur du Thalys, Abdelhamid Abaoud. Quoi qu'il en soit, 3 autres hommes accusés d'avoir aidé Ayoub El-Kazani et son commanditaire ont eux été condamnés à des peines allant de 7 à 27 ans de prison. La bonne nouvelle est tombée hier soir, même si elle n'en témoigne pas moins de la toute-puissance, toujours et encore, de l'hydre terroriste au Nigeria. Plus de 300 écoliers, dont l'enlèvement la semaine dernière avait été revendiqué par Boko Haram, ont été libérés hier soir, entassés à l'arrière de camions. Les adolescents ont été retrouvés sur la route de la liberté, retrouvée quelque part au nord-ouest du pays. À en croire les premiers témoignages recueillis, ils auraient été retenus plusieurs jours dans la forêt, dans des conditions de vie difficiles. Alors on ne sait pour l'heure pas grand-chose en réalité sur les conditions de cette libération. Y a-t-il eu ou non quelques arrangements avec les autorités? Les précisions de notre correspondante Lisa Fabian.
Les conditions de libération des quelques 344 lycéens restent encore floues à ce stade. Des photos diffusées par les autorités nigérianes hier soir montrent ces enfants entassés à l'arrière des camions des forces de sécurité qui les ramènent vers l'état de Katsina dont ils sont originaires, où ils vont être soumis à des examens médicaux avant de pouvoir rejoindre leur famille. Les gouverneurs de la région ont en tout cas assuré qu'aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs de ces jeunes qui ont été secourus par l'armée dans une zone boisée à des kilomètres du lieu de leur kidnapping. Même si les autorités nigérianes restent discrètes sur le sujet, plus d'une centaine d'enfants se trouveraient toujours entre les mains des ravisseurs, des bandits de la région spécialisés dans le pillage, l'attaque de camions et les enlèvements contre rançon. Ces gangs criminels sévissent dans le nord-ouest du Nigeria depuis des années, mais cette fois, ils auraient agi pour le compte de Boko Haram, qui a revendiqué cette action spectaculaire, créant une onde de choc au Nigeria. Effectivement, ce kidnapping a eu lieu très loin du fief habituel des djihadistes situé bien plus à l'est dans l'état de Borno. Hier soir, le président Muhammadu Buhari a d'ailleurs déclaré que le nord-ouest du Nigeria représente dorénavant un nouveau défi sur le plan sécuritaire.
Les premiers corps ont été repêchés samedi dernier lors d'une mission de routine d'un patrouilleur des gardes-côtes à une dizaine de kilomètres au large du littoral vénézuélien. Et depuis, il ne s'est pratiquement pas passé une journée sans qu'un nouveau cadavre ne soit découvert, soit repêché, soit échoué sur la plage. De la tragédie des migrants vénézuéliens fuyant la crise sans fin qui frappe leur pays, noyés en mer avant même d'avoir pu rejoindre leur Eldorado, en l'occurrence l'île voisine de Trinidad et Tobago. Au cimetière du village côtier de Guéria, un cortège d'une centaine de personnes s'est réuni cette semaine devant l'église où le curé a donné sa bénédiction au cercueil hissé sur le plateau d'un camion. À l'intérieur, Cristalinda, une enseignante de 36 ans, mercredi dernier, ses obsèques étaient célébrées au lendemain de celles de Christian, son fils de 11 ans. Au total, l'embarcation qui a fait naufrage comptait une trentaine de personnes à son bord, tous aujourd'hui disparus. Et cette histoire, comme tant d'autres, vient donc témoigner à l'occasion de la Journée internationale des migrants ce vendredi, de cette tragédie qui, année après année, frappe tous ceux qui, le plus souvent guidés par des trafiquants, ne parviennent pas toujours jusqu'à l'aube de leur nouvelle vie. Aussitôt après que les grands électeurs eurent entériné sa victoire, c'était en début de semaine, Joe Biden avait non seulement dénoncé dans un réquisitoire sévère le refus obstiné de son adversaire de reconnaître sa défaite, mais plus encore, le président élu avait appelé l'Amérique à tourner la page. Or, nouveau symbole de la diversité souhaitée par le démocrate dans son futur gouvernement, après Kamala Harris, première femme noire à devenir vice-présidente des États-Unis, après Pete Buttigieg, premier membre ouvertement homosexuel d'un gouvernement américain hier, Joe Biden a choisi Deb Haaland pour diriger le ministère de l'Intérieur, une nomination qui, si elle est confirmée par le Sénat, Claude Guibal, fera de cette femme de 60 ans la toute première ministre amérindienne de l'histoire du pays.
Le geste est lourd de sens et de symboles, tant Deb Haaland incarne cette diversité promise par Joe Biden. Née dans la tribu des Laguna Pueblo du Nouveau-Mexique, c'est une pionnière de la visibilité des Amérindiens en politique, un parcours qu'elle porte avec fierté, elle qui a connu des moments difficiles, l'alcoolisme, la pauvreté, une vie qu'elle a transformée par l'énergie et la détermination à défendre les droits des peuples autochtones, un combat indissociable des valeurs portées par la culture amérindienne, la sacralité de la nature. Dans son portefeuille de ministre de l'Intérieur, Deb Haaland aura ainsi à gérer les terres fédérales comme les parcs nationaux, les réserves indiennes tant mises à mal sous l'administration Trump, une administration qui avait par exemple réduit dès son entrée en fonction la surface de certaines réserves permettant d'ouvrir ainsi des possibilités de forage pétrolier ou minier dans ces zones. Symbole de ces luttes, la bataille remportée l'été dernier par les Sioux de Standing Rock dans le Dakota du Nord contre un oléoduc traversant leurs terres sacrées. La nomination au poste de ministre de l'Intérieur de Deb Haaland a été portée par une véritable campagne de soutien des célébrités comme Cher ou Jane Fonda et 120 responsables tribaux qui se sont mobilisés dans une lettre ouverte pour permettre ainsi au peuple autochtone pour la première fois d'être représenté au plus haut niveau du pouvoir américain.
Alors pendant ce temps, Donald Trump, on l'a dit, n'a toujours pas lui concédé sa défaite, pas plus d'ailleurs qu'il n'a précisé s'il assisterait ou non à l'intronisation de son successeur le 20 janvier prochain. À Washington, peut-être. L'actuel locataire de la Maison-Blanche est-il trop occupé par sa vie d'après? En l'occurrence, le milliardaire se prépare à devoir déménager dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. À ce détail près, toutefois, Sébastien Paour, que ce déménagement à peine commencé est déjà contrarié.
Déclarer ses impôts à Mar-a-Lago ne suffit pas, encore faut-il pouvoir venir y vivre, et c'est le problème pour le milliardaire. Il a transformé sa résidence en club privé il y a déjà pas mal d'années, et les voisins ressortent aujourd'hui l'accord qu'il a signé avec la ville de Palm Beach en 93. Ce texte dit clairement que le domaine ne peut pas être un lieu d'habitation. C'est désormais un club qui peut compter jusqu'à 500 membres, et ses membres ne peuvent pas séjourner plus de 21 jours par an sur place, et ça vaut aussi pour le propriétaire. Au moins deux voisins ont engagé des avocats pour rappeler les termes du contrat. Ils disent qu'ils ont été tolérants, qu'ils ont accepté qu'on construise un héliport pour Marine One, l'appareil présidentiel, mais qu'il faut désormais démonter tout ça et arrêter les travaux qui auraient déjà commencé, travaux d'aménagement d'une partie des lieux en résidence d'habitation. Bref, le message à un peu plus d'un mois de la fin du mandat, c'est on ne veut pas d'un bientôt ex-président à côté de chez nous. Allez voir ailleurs, il y a d'autres domaines à vendre à Palm Beach.
Direction à présent le Canada voisin. Le pays a lancé lundi dernier la plus grande campagne de vaccination de son histoire en administrant les premières doses du vaccin Pfizer en attendant celui de Moderna qui devrait arriver sur le territoire sous peu. Au total, les autorités ont acheté plus de 340 millions de doses, soit 9 par habitant. En revanche, et avant qu'une part importante de la population ne soit immunisée, probablement pas avant la fin du mois, eh bien, la prudence reste toujours de mise. Une correspondance à Montréal signée Hélène Jouan.
Gisèle Lévesque, 89 ans, restera symboliquement la première Québécoise à avoir reçu dans sa maison de retraite le vaccin tant attendu.
Ah, c'est émotionnant, très émotionnant.
Émotionnant sans doute, mais le Premier ministre Justin Trudeau, pourtant fier d'avoir permis au Canada d'être parmi les premiers à lancer la vaccination, reste prudent.
Ça va quand même être un hiver difficile. On voit que les vaccins commencent à arriver, ça va aller mieux. Mais il va falloir qu'on passe à travers cet hiver avec encore beaucoup de restrictions.
Des restrictions nécessaires face à la flambée du virus, 6500 nouveaux cas par jour encore cette semaine au Canada. Et les 400 000 doses de vaccins attendues d'ici la fin de l'année ne suffiront pas à immuniser une part significative de la population. Un Noël confiné pour tous, donc autour de la traditionnelle tourte à la viande. Le Québec, province la plus touchée avec près de 170 000 cas, vient par ailleurs d'annoncer la fermeture des commerces jusqu'au 11 janvier avec l'espoir de casser la courbe pendant les fêtes. Luce, dans son salon de coiffure à Montréal, n'en peut plus.
Râle-pompon. Je vais profiter de ce congé parce que je suis épuisée. Je vais bricoler, je vais cuisiner, je vais boire. Donc c'est un Noël que je trouve qui ne sera pas rose pour personne.
Voilà, reportage à Montréal, signé Hélène Jouan. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Généralement gris, la perturbation arrivée en soirée par le Finistère stagnera toute la journée sur la Bretagne. Il pleuvra également sur les Cévennes et puis le département des Landes a été placé en vigilance orange pour risque de crue. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Claire Flochel pour le prochain journal de la rédaction.